Messieurs les censeurs, bonsoir.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Un avenir, cela se façonne, un avenir, cela se veut. C'est avec une citation de Raymond Barre que nous quittons sans regret une année 2020, pas comme les autres. Oui, vous avez bien entendu, Raymond Barre vous souhaite une bonne année 2021, meilleure et pleine de projets. Et le souhait est signé d'une ancienne adjointe au maire, chargée de la culture et de relations internationales. Si le bord politique de cet élu ne fait pas de doute, comment oser aller jusqu'à citer l'ancien Premier ministre des Français entre 1976 et 1981 ? N'avons-nous pas mérité mieux pour préparer un avenir qui s'annonce avec plein d'interrogations ? Raymond Barre, c'est la rigueur, l'austérité économique, le plan nucléaire, la suppression de plusieurs dizaines de milliers d'emplois lors de la nationalisation des entreprises sidérurgiques ou un compte en Suisse contenant plusieurs millions d'euros non déclarés à l'État français. Raymond Barre, c'est le chantre du néolibéralisme, le précurseur d'une politique chère à Margaret Thatcher, Ronald Reagan et Milton Friedman. Comme le président Macron premier aurait-il retenu les leçons du moment que nous traversons ? La santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, ne serait-il pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe ? Des biens et des services doivent-ils être placés en dehors des lois du marché ? Pas sûr que Raymond Barre aurait validé. Au terminus des prétentieux, 946e vœu de bonheur et de prospérité ce soir, se demande bien si la culture et l'éducation seront des biens précieux en 2021. Je vous ai dit que les députés avaient retoqué l'amendement 1231 sur l'abondement à hauteur de 3,5 millions d'euros vers les radios associatives de communication sociale de proximité. Sous les 90.0 de Radio B, encore une décision de rupture qui n'a pas été votée à l'unanimité. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 ce soir. Oula, 18h15, peut-être.
Peut-être, ouais.
Peut-être.
Vu comme c'est parti.
Oh là, ça m'étonne, ouais. Pour la dernière émission en direct de l'année.
Ouais.
Et ouais, malgré le déconfinement, rares sont les bénévoles à avoir franchi les portes de la maison de Radio B. Macron a bien réussi son coup, faire peur à un pays au point de le paralyser, même lorsqu'il s'agit de s'amuser et de se divertir. Consommer, par contre, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de risque. Ce soir, nous allons vous faire voyager à travers le temps et vous pourrez rentrer après 20h. Pas de confinement pour la musique. Sommes-nous dans l'illégalité ? Radio B est-il un lieu de culture ou uniquement un lieu où la culture s'exprime ? Vaste débat que nous n'aurons pas avec mon co-animateur. Ce soir, il va se lâcher. Comme la semaine dernière, veut-il concurrencer l'émission Interzone de notre ami Julien, qui est la référence en matière de requindé ? En tout cas, il sera le dernier de l'année 2020 à s'exprimer sur sa passion dévorante. Tonio, bonsoir.
Salut Michel, salut à tous. Alors non, je n'ai pas la prétention de me substituer à Julien qui fait une très belle émission. Hein, sur le rock indé.
Ah oui.
Non. Bon, effectivement, je profite des émissions un petit peu open pour passer un petit peu ce que j'écoute, ce que j'aime bien.
Ah ouais.
Ouais. Non, un petit peu open.
Open pour cette fin d'année.
Voilà.
Et c'est la dernière, hein.
Et c'est la dernière, hein, de l'année, ouais.
Et c'est la dernière en direct.
En direct, en plus, ouais.
De Radio B. Hein.
Bah,
on est les derniers.
Ouais.
On sera pas les premiers, j'espère. Enfin, on espère.
Bon, espérons, hein.
Espérons.
Et puis espérons qu'on puisse revenir aussi jeudi prochain.
Mais oui, on sera là. C'est après 18h qu'il y aura lieu le discours. On pourra rentrer.
C'est vrai.
Voilà, on y va.
Allez, go.
Mississippi Queen, she taught me heaven.
Nous sommes le 7 mars 1970. Christine a 7 ans. Ah oui, elle ne savait pas que le jour de son anniversaire sortait le premier album d'une des légendes du rock, le combo américain Mountain. Alors quelques mois plus tôt, oui, le chanteur et guitariste Leslie Weinstein, plus connu sous le nom de scène de Leslie West, forme avec le chanteur et bassiste Félix Pappalardi le groupe de rock à tendance blues, voire hard rock, Mountain. À l'origine, c'est le nom de l'album enregistré par West et sur lequel avait participé Pappalardi. Le temps d'embaucher Andy Smart à la batterie et Steve Knight au clavier, de participer au mythique festival de Woodstock et de changer de batteur, Mountain enregistre et sort le 7 mars 1970 son premier album, Climbing. Que de noms bizarres ce soir. C'est un véritable succès avec le morceau culte de ce soir, Mississippi Queen, que Tonio connaît peut-être s'il a joué à Guitar Hero 3.
Non, ou
plus sûrement à Grand Theft Auto 5.
Oh, j'ai un petit peu commencé à jouer, mais c'est pas le type de jeu qui me plaît.
Ok, bon, bah tu connaissais
mais...
pas.
Voilà. Non.
Donc Mountain poursuit son ascension l'année suivante avec Nantucket Slide Ride et la chanson du même nom qui reste l'une de leurs compositions les plus célèbres. En 1972, sort leur troisième album studio Flowers of Evil, ainsi qu'un album en public, Mountain Live, The Road Goes Ever On. Mountain, ce sont deux chanteurs au style opposé, le physique, le style, les lignes mélodiques des compositions de Pappalardi, généralement coécrites avec son épouse Gail Collins, qui est également responsable des dessins des pochettes, renforcée par sa voix charmeuse. Et le style, la voix charmeuse de Pappalardi, hein, bien sûr, est le style plus rauque et éraillé de West, qui de son côté écrit des morceaux blues rock agressifs, dont les riffs appuyés rappellent parfois le hard rock. Capable du meilleur, comme des pires excès, bien évidemment, nous sommes en 1970, les musiciens se séparent un temps, en 1972, justement, en raison notamment des troubles auditifs de Pappalardi, provoqués par le volume excessif des concerts que donne le groupe, et des problèmes d'égo, bien sûr, hein, entre ses membres, lancés parfois en concert dans des improvisations reproduisant un schéma identique à celui de Cream, avec lequel il présente une parenté indéniable. Ça sent le sulfate kétamine à plein nez.
Hein?
Après, on comprend qu'il soit souvent testé et approuvé. Hein?
Oui, oui. Hein? Mmh.
Oh, oui. La voisine s'en souvient.
Ouais, de là où elle est.
Ouais. Ah, mais elle était encore là. Hein?
Ouais, non, mais je dis, elle se souvient de là où elle est en ce moment.
Ben oui, oui, oui. Ouais.
Mmh. Allez, on continue.
Allez, continuons. Le temps d'une reformation d'un an et d'un album studio, Avalanche, Mountain se dissout en 1974. Chacun des musiciens vacant à ses projets perso. En 1983, Félix Pappalardi est abattu par son épouse, Gail Collins, suite à une dispute.
Mm-hmm. C'est très américain, hein.
Ouais, ouais. Mm-hmm. Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Et le port d'armes, c'est pas fait pour les chiens. Ça doit être ça. Hein. C'est ce qu'elle dit encore aujourd'hui. Enfin, je sais pas ce qu'elle dit aujourd'hui. Bon, bref, Leslie West continue sous le nom de Mountain avec d'autres musiciens jusqu'en 2010. Un an plus tard, à la suite des conséquences de diabète, il est amputé d'une jambe. Il remontera sur scène un mois plus tard. Le 24 décembre 2020, Leslie West nous quitte à l'âge de 75 ans, dans la plus totale indifférence en France. Hein. Il aura marqué l'histoire du hard rock avec des rythmiques riches et des solos inspirés, et sa voix, à l'image de son physique imposant, restera comme l'une des plus éraillées et généreuses. Mountain symbolisait bien le début des années 70 et était le digne héritier des Cream, Grateful Dead, Canet Heat, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane et autres 10 Years After, tous ceux qui a priori ont dû participer au Woodstock Festival. Hein. Mm-hmm. Leslie West fait partie de l'histoire du rock. La France, des soi-disant grands médias, a encore raté un rendez-vous. Bon, sans le rock, hein, nous ne serions pas là ce soir. Nous n'avons pas oublié. Eh bien, il est 17h passé de 27 minutes sur les 90.0 de Radio B. Ou alors, Tonio?
Ou alors, vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h. ou la rediffusion du samedi après-midi, 14h.
Ce soir, et pour finir l'année 2020 en beauté, si c'est possible, nous avons décidé... Si, c'est possible.
C'est
parti en tout cas. Mm-hmm. Ouais, nous avons décidé de nous faire plaisir. Pas de contraintes de date de concert, d'artistes dans les studios, de bilan de saison ou d'année. Ce soir, nous bravons l'interdit en place depuis le 17 mars 2020, puisque nous ferons ce qui nous plaît.
Ouais.
Voilà. Si, c'est possible, toujours. Nous ne transgresserons aucune loi, aucun confinement, aucun couvre-feu. Ce soir, nous ne serons pas en guerre, à part contre le mauvais goût.
Oui, et puis qu'on le sait, ça.
Aussi. On ne voulait pas le dire, ça.
Pardon.
Voilà, c'est...
Mais bon, on se rattrape sur les autres plages horaires.
Je ne sais pas où je t'aurais placé en 40, Tonio. Alors, donc, un combat que nous tentons de gagner malgré Ed Sheeran et Taylor Swift. Eh oui. Alors, merci à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs fidèles, ou pas d'ailleurs, de votre écoute et de votre fidélité. Ce soir, nous n'allons pas vous décevoir.
Hein. Non.
Non.
Je pense pas.
Fans de chansons francophones, nous allons vous faire un défi invité. Mm-hmm. Hein, nous comptons sur vous, justement pour ne pas nous dénoncer au CSA, Tonio.
Ah, bah ouais. Mm-hmm. Pardon.
Voilà. Si la semaine dernière, le bilan carbone de Tonio était détestable,
ouais.
Hein, détestable.
Ah,
hein.
Oui.
Ouais, ce soir, il a décidé de prendre le bateau. Direction l'Angleterre et une ville connue pour son équipe de football qui a failli rencontrer les Verts de l'Est Saint-Etienne, figure-toi, en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en mai 75.
D'accord.
Voilà. Mais le Parc des Princes se souvient encore des supporters de Leeds United, où a sévi un certain Lucas Radebe. Fan de football, c'est mon cas, mais pas ce soir. Vous allez être ravis.
Oui.
Hein, on y va où alors?
Eh ben on va à Leeds.
Ouais,
tu l'as dit, Michel, comme souvent.
T'allais pas parler des Verts, c'est bon?
Non, mais j'avais parlé du foot.
Okay.
Mais c'est pas grave, parce que je vais en dire un petit peu plus.
Bah, oui.
Donc en fait, pourquoi on parle de Leeds? C'est parce qu'en fait, c'est la ville dont est originaire le groupe Kaiser Chiefs, un groupe de rock indépendant britannique. Il est initialement formé en 1997 sous le nom de Parva, puis renommé Kaiser Chiefs en 2003. D'après le nom du club sud-africain Kaiser Chiefs Football Club, dans lequel tu viens de le dire, Michel, Lucas Radebe, alors capitaine de l'équipe de Leeds,
bien connu,
dont les membres du groupe sont supporters.
Eh oui.
Il se compose de 5 membres, le groupe, pas l'équipe de foot, le chanteur Ricky Wilson.
Club, c'est à 5.
Oui, mais pas Leeds United.
Ok, d'accord.
Donc le chanteur Ricky Wilson, le guitariste Andrew White, le bassiste Simon Ricks et le claviériste Nick Baines, ainsi que le batteur Nick Hodgson, qui a été remplacé par Vijay Mistry en 2013. Leur premier album, Employment, sorti en 2005, est un grand succès commercial et critique. Et leur vaut de remporter 3 Brit Awards en 2006. Leur deuxième album, Yours Truly Angry Mob, rencontre lui aussi un certain succès, notamment à travers le single Ruby. Ils sortent ensuite 2 autres albums, Off With Their Heads en 2008 et The Future Is Medieval en 2011, qui ont moins de succès. Leur 5e album, Education, Education, Education and War, est sorti en 2014, suivi du 6e, Stay Together, en 2016. Leur dernier album en date s'intitule Duck et il est sorti en 2019. Ce soir, c'est un extrait du premier album, donc Employment, que je vous propose. Voici I Predict a Riot, Kaiser Chiefs. I Predict a Riot, un extrait de l'album Unemployment sorti en 2005, et un album des Kaiser Chiefs, les Anglais de Leeds.
Voilà, saluons nos auditrices et auditeurs fidèles quand même. Il est temps, il est 31 décembre. Alexandre, Anouk, Arnaud. Voilà, mm-hmm. Il y a trois Arnaud qui nous écoutent.
Un triple.
Voilà, on parlera des suites, on parlera des autres auditrices et auditeurs fidèles tout à l'heure. Donc de Leeds. Tu en parlais à Londres, il n'y a que 200 km, j'ai regardé. Deux heures de train plus tard, nous nous retrouvons au Kingsway Studio pour fêter, comme il se doit, les 40 ans de la jeune fille de fer, ou vierge de fer, et que l'on pourrait aisément qualifier de dame de fer. Je me suis reparlé d'Iron Maiden, même si le combo londonien a été créé en pleine période punk le 25 décembre 1975 par le bassiste Steve Harris. Et le guitariste Dave Murray, leurs influences sont plutôt métal, Black Sabbath, UFO, Thin Lizzy ou Deep Purple. L'arrivée du chanteur Paul Di'Anno en 1978 est un véritable tournant. Il apporte une note plus dure, plus punk à la musique et vie du combo. Le temps de rencontrer Rod Smallwood, leur manager est considéré comme le sixième membre du groupe, le septième depuis l'arrivée de Yannick Gers aux guitares en 1990, d'enregistrer une démo Sound House Tapes qui partira comme des petits pains et de signer chez EMI. La carrière d'Iron Maiden est véritablement lancée. Dennis Stratton les a rejoints aux guitares et Clive Burr à la batterie. Le combo se rend au Kingsway Studio de Londres et enregistre le premier album du groupe éponyme entre novembre 1979 et janvier 1980. Il sort l'album du groupe éponyme, le 14 avril 1980, et comporte deux des trois démos sorties un an auparavant, Iron Maiden et Prowler. Invité à Top of the Pops, Iron Maiden refuse de jouer le single Running Free en playback et devient le premier groupe à jouer live depuis The Who en 1972. La suite, si vous êtes des fans de heavy metal, vous la connaissez. Iron Maiden est l'un des plus grands groupes de rock du monde. Il a fêté ses 40 ans confiné et a dû interrompre sa tournée mondiale Legacy of the Beast, qu'il reprendra au printemps 2021. Ce soir, nous reviendrons 40 ans plus tôt, il était temps. Paul Di'Anno était au micro, il restait quelques traces de l'esprit punk des années 70. Le premier morceau de l'album s'intitule Prowler, Iron Maiden.
Yeah.
Crawler, Iron Maiden, nous étions en 1980 et sortait le premier album d'un groupe éponyme qui ferait date dans l'histoire du hard rock. 40 ans plus tard, Iron Maiden est toujours vivant. Il est encore temps pour les fans de métal d'assister à un concert de la Dame de Fer en France. Eh bien, ce sera le 11 juillet 2021 du côté de l'Arena Paris La Défense. Voilà. On parlait de punk rock. Je parlais de punk rock. Au début des années 80, est apparu en écho à la déferlante chère aux Sex Pistols, Clash et autres Ramones, un genre musical appelé le post-punk. 20 ans plus tard, place au post-punk revival avec les chouchous de Tonio, de Killers, Editors, Interpol. Il nous avait caché son faible pour un combo londonien au nom étrange, vraiment étrange, pieux mensonge. Tonio, visiblement, toute vérité n'est pas bonne à dire.
Sacré Michel, ah, t'as bien travaillé. Hein. En fait, tu veux parler de White Lies.
Ah oui,
en anglais. Hein. Eh oui, hein. Donc effectivement,
pieux mensonge.
Pieux mensonge. Pourquoi ouais. Bon. Trio composé du chanteur et guitariste Harry McVeigh, du batteur Jack Lawrence Brown et du bassiste Charles Cave. L'histoire de White Lies est avant tout une épopée adolescente. Fan de punk, de Britpop et de New Wave, le trio se baptise Fear Flying et après quelques années de répétition enregistre deux disques au format vinyle. Le vinyle correspond aux aspirations artistiques du trio qui souhaite retrouver le son des premières heures de la New Wave. C'est en 2007 que Fear of Flying annonce son sabordement au profit de White Lies, un groupe qui est exactement le même avec un nouveau nom. Si le style est grosso modo le même, il revient plutôt vers une new wave assez classique, alors que les premiers titres s'orientaient plutôt vers un punk matiné de pop. Deux premiers titres, Unfinished Business et Death, leur permettent de faire leur première télé et de s'imposer à la radio avec des rythmes qui rappellent fortement les années 80. En janvier 2009 sort You Lose My Life, leur premier album complet, qui se classe premier aux charts albums au Royaume-Uni. Le deuxième album, Ritual, sort en 2011 et propose un rock sombre. D'ailleurs, le style musical est souvent décrit comme sombre. Et on compare White Lies à des groupes que tu as cités tout à l'heure, Michel, donc à des groupes de musique tels que Joy Division, Editors ou Interpol. Big TV est publié en 2013, suivi en 2016 de Friends. Le dernier album en date, Five, nom original pour un cinquième album, hein, Five, est sorti en 2019. Voici un extrait du premier album, donc l'album To Lose My Life, avec le titre Farewell to the Fairground, White Lies.
It's
Farewell to the Fairground, un titre de What Lies, qui est sorti en 2009, extrait de l'album To Lose My Life.
Ça sent Depeche Mode, Simple Minds, The Cure, les années 80,
ouais.
Quoi. Hein,
voilà, les années 80.
La New Wave.
Ouais. Mais bon, puis un petit peu actualisé.
Oui, le
son n'est pas forcément le même.
Exactement. Bien. Saluons nos auditrices et continuons de saluer nos auditrices et auditeurs fidèles. Saluons Daniel, David, Herman, Olivier et Patrick. Voilà. Bon, décidément, l'air londonien nous réussit plutôt bien.
Ben oui, on aime bien Londres. Hein.
Puisque nous restons dans la capitale britannique, quelques heures avant le début officiel du Brexit.
Ah oui, exact.
Ouais. La musique doit beaucoup à la perfide Albion, et le rock en particulier. Et qui dit rock dit pop, et qui dit pop anglaise dit forcément...
Iggy Pop ? Non, je plaisante, Michel,
drôle.
Excuse-moi.
C'est la dernière blague de l'année.
Ouais,
c'est drôle,
Ouais, je sais pas pourquoi. J'aurais pu dire Luan, mais non, j'ai dit Iggy Pop.
Oui, Iggy Pop, ça rime pas du tout, pourtant.
Non.
Bah oui.
Excuse-moi, Michel.
Donc, tu dis pop anglaise, tu dis plutôt de... Hein, tu dis plutôt... La pop anglaise. Le meilleur groupe de tous les temps.
De pop anglaise ?
Ouais.
Celui que tu as passé, là ?
Non.
Non.
Non, mais c'est un rapport.
Ah.
Bah, le meilleur, tu le connais peut-être pas, c'est les Beatles.
Ah.
Voilà.
Exact.
Bah, c'est pas grave. Alors, continue à écouter Luan, évidemment, ça te fait du bien. Alors, si les Scarabées sont originaires de Liverpool, la bande à Paul, John, George et Ringo a enregistré l'immense majorité de ses chansons à Londres. Essentiellement au studio MI, devenu studio Abbey Road, en 1970, en hommage au dernier album enregistré par les Beatles. C'est ainsi qu'Alan Parsons commence sa collaboration avec le plus grand groupe de tous les temps, le 23 janvier 1969, comme opérateur de ruban sur l'album Let It Be. Et oui, à l'époque, on enregistrait sur des bandes. Hein. Ainsi que lors de leur concert sur le toit de l'immeuble d'Apple Records en janvier 1969. Il fit aussi partie de l'équipe technique pour l'album Abbey Road. Avec une telle carte de visite, sa notoriété est assurée. On le retrouve comme ingénieur du son sur les albums de Atom Heart Mother et surtout The Dark Side of the Moon des légendaires Pink Floyd. En 1976, Alan Parsons fonde son propre groupe avec le pianiste et chanteur Eric Wolfson, The Alan Parsons Project. Eric Wolfson écrit et compose, Alan Parsons enregistre et produit. Andrew Powell s'occupe des parties dites classiques. Le style musical d'Alan Parsons Project est un mélange de rock progressif, de pop et de variété, avec des instrumentaux qui feront le succès du projet. La notion de groupe est toute relative. Les autres chanteurs et musiciens, même s'ils sont des membres réguliers, n'interviennent pas dans la création artistique. L'univers d'Alan Parsons Project mêle la littérature, le Moyen-Âge, à des ambiances plus modernes. Après des albums remarquables et remarqués un an sur deux, Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe en 1976, Pyramid en 1978 et The Turn of a Friendly Card en 1980, et puis en juin 82, sort le sixième album d'Alan Parsons Project, Eye in the Sky, avec son tubesque Eye in the Sky, hein, précédé par l'instrumental Sirius, utilisé par la télévision et les compétitions sportives lors de la rentrée des équipes, encore aujourd'hui, il me semble. Mais je suis moins sûr, là.
Je sais pas. Ouais. Ça, je peux pas te dire.
Le succès fut planétaire, hein, sauf au Royaume-Uni. Eh oui, ou même le succès de Don't Answer Me, deux ans plus tard, ne le fit pas grimper dans les charts anglais. La France ne résista pas longtemps à la fièvre parsonienne. Cela correspond aussi à l'arrivée des radios libres, dont feu Radio TSF du côté de Yona, que ce soit Aspirine avec Philippe Boucher, Black Moon avec notre ami Patrick, Réglis Mint de votre serviteur et plein d'autres émissions, on a bouffé du High in the Sky sur les 100.2. Ce soir, pas de question de céder à la facilité, aucun intérêt artistique de diffuser High in the Sky. Hein. Non, ce soir, je vous propose de découvrir un autre single de l'album. Il s'intitule Psycho Babble, The Alan Parsons Project. Thank you. Souvenez-vous, The Alan Parsons Project, Psycho Babble, extrait du mythique et malheureusement matraqué album de 1982, Eye in the Sky. Même Tony connaît.
L'album, peut-être quelques titres, ouais, c'est
possible. Bah oui, ça a été tellement matraqué. C'est...
Oui, sûrement. Pas plus... Celui-là, je ne connaissais pas, mais d'autres. Voilà.
Donc Eric Wolfson avait quitté le projet après la sortie du dispensable Gaudi, parce qu'ils avaient enregistré un album qui s'appelait Gaudi.
Voilà. Ah, voilà. Sagrada Familia.
Voilà. Mm-hmm. En 1987, elle nous avait quitté le 2 décembre 2009. Depuis, bah, c'est sous le nom d'Alan Parsons que le projet continue d'exister. Mais produire, c'est bien. Composer, également. Et ce sont deux métiers bien différents. Nous passons donc sous silence les dernières productions d'Alan Parsons, par respect pour celles et ceux qui ont vécu les années 70 et 80. Mais un petit pyramide, un petit The Turn of a Friendly Card ou un petit Eye in the Sky ne peut pas vous faire de mal. La magie Alan Parsons Project opère toujours et le son est toujours aussi bon. Comme quoi, hein, avec un ingénieur du son hors pair, on obtient des bonnes choses.
Bien sûr.
Après, le son, c'est une autre, la musique, c'en est une autre. Le temps de prendre le bateau direction les États-Unis, hein, pour nous attend Antonio.
Oui.
Bah oui, décidément, il se sent bien dans l'Oklahoma.
Hein, ouais, j'aime bien.
Ou selon une légende, une tribu amérindienne, figure-toi, locale, appelait la rivière Stillwater, car son eau était toujours calme. À une heure aussi matinale, 11 heures passées, hein, avec le décalage horaire, Tonio n'est pas encore passé à l'eau gazeuse.
Ah non, bah non. Bien Michel, t'as recherché des choses sur l'Oklahoma.
Yeah.
C'est énorme.
Alors pourquoi c'est marqué dans Wikipédia.
Ah hein, d'accord.
Tu pourrais faire la même chose. Hein.
C'est vrai.
Tu n'as pas Wikipédia. Tu n'as pas Wikipédia.
Si, mais j'ai pas cherché pour l'Oklahoma.
Voilà.
Ah
voilà.
C'est ballot. Hein.
Stillwater, toujours.
Un style,
C'est important, Stillwater. Mm-hmm. C'est une ville.
Stillwater.
C'est la ville de Nest. C'est la ville où est Naki.
Où est né le groupe.
Mmh. Ah ouais. Monaki. Mmh.
D'accord. Donc, ce groupe, c'est Other Lives.
Ben voilà.
Et voilà, c'est un groupe de rock indépendant américain. C'est pour ça qu'on va en Oklahoma, à Stillwaters. Donc, en 2004, Jess Tabish s'entoure de quatre musiciens, Jonathan Monet, Jenny Sue, Josh Osteen. Ah, Unstott, ils ont des noms bizarres hein, en Oklahoma. Hein. Et Colby Owens pour former Kunek, un groupe alors exclusivement instrumental. En 2006, ils enregistrent un premier album intitulé Flight of the Flints. Renommé Other Lives, Tabish et ses musiciens réalisent deux enregistrements éponymes, un EP en 2008 et un album en avril 2009. En 2011, le quintet enregistre un deuxième album studio, Tamer Animals. Cet album, produit par le label TBD Records, le label de Radiohead, est celui de la consécration. La composition de l'album, dont Jess Tabish a été le chef d'orchestre, dure 16 mois. Cette période traduit l'esprit perfectionniste et minutieux du groupe. Musicalement, Tamer Animals est un mélange entre rock indépendant, folk et folk psychédélique, le tout avec une approche parfois très orchestrale. Other Lives publie ensuite The Rituals en 2015 et le dernier album en date est sorti en avril 2020. Il s'intitule For Their Love. Ce soir, je vous propose un extrait du premier album avec le morceau 412 dans une version live enregistrée dans une radio de Seattle. En 2011. Et donc 412 hein, qui est extrait de l'album Tamer Animals. 412.
Tamer Animals.
Tamer Animals.
Okay.
Bien. Donc Tamer Animals en français si on veut et Tamer Animals
en anglais Tonio.
En anglais. Donc 412 Other Lives.
Still here today, all spouting him.
412, un titre de Other Lies, extrait de l'album Tamer Animals en français ou Tamer Animals en anglais. Ici dans une version live enregistrée dans les studios, on va dire, d'une radio FM de Seattle en 2011.
Bien. Saluons Patrick, Romain, Valère et Vincent, des habitués et des fidèles auditeurs de l'émission. On garde les dames pour la fin.
Le meilleur, toujours. Voilà. Enfin.
Reprenons le bateau, Tonio, tu le veux bien.
Je veux bien.
Et repartons à Londres.
Allez, go.
Dommage, on aurait pu rester. Ouais. Tant pis. Tu aimes les voyages.
Oui, j'adore.
Voilà. Ou plutôt à Aylesbury, ville jumelée avec Bourg-en-Bresse.
Ah oui.
Et bien connue dans l'émission depuis le passage de Mike Oxlade.
Ah oui, je m'en souviens.
Le directeur bénévole de Stoke Mandeville Hospital dans nos studios et qui nous avait gratifié d'une bien belle dédicace dans ses studios. Dans son radio, après avoir vu mon superbe t-shirt de Jimi Hendrix.
Ouais.
Alors, la ville est aussi connue pour la statue de David Bowie, en hommage à la commune où il avait mis en scène pour la première fois son personnage de Ziggy Stardust. Et Aylesbury est beaucoup moins connu, et c'est bien dommage, pour avoir vu la naissance de ce qui deviendra un de mes chouchous depuis 1984, et dont on n'est pas parlé avec Mike, c'est Mary Lyon.
T'avais oublié.
Je savais pas, surtout. Je savais même pas que cette ville existait avant. Le passage de Mike. Après des changements, pourtant, je avec Bourg-en-Bresse quand même.
Aylesbury.
Donc le rock progressif, mais pas que de Mary Lyon, essuie ses premières critiques. Après la sortie de son premier album, Script for a Jester, c'était une pâle copie de Genesis, période Pata Gabriel, rock and folk les traitera de Genesis du pauvre. On ne touche pas aux légendes dans le milieu. Mais le succès est au rendez-vous et attire aussi bien les fans de prog que de hard rock. Leur deuxième galette, Fugazi, parue en 1984, confirme tout le bien que certains pensaient d'eux. Leur mini-album publié en public, Real to Real, un des premiers de ma discographie, prouve que sur scène, Mary Lyon mérite un succès sans cesse grandissant. Et puis nous voilà arrivés le 17 juin 1985, date de sortie d'un des plus beaux albums des années 80, le formidable Misplaced Childhood. Mary Lyon avait mis les petits plats dans les grands, un concept album qui traite de l'enfance perdue sous toutes ses facettes. Un des plus grands producteurs de l'époque, Chris Kimsey, qui a travaillé avec les Rolling Stones, Peter Frampton, Jimmy Cliff, Joan Jett, ou malheureusement pour nous, Tonio.
Tu viens de me le dire ?
Si.
Johnny ? Non.
Notre Johnny National.
Il nous manquait, lui. Hein. La dernière, il fallait le mentionner.
Exactement.
Voilà, donc tu l'as fait. Merci, Michel.
Il nous poursuivra jusqu'à la fin, je crois. Donc la suite des bonnes choses à porter, une des plus belles pochettes du rock, dessinée par Mark Wilkinson, et une bonne idée de ce que pouvait être à l'époque le rock progressif, hein, entre ballades mélancoliques, morceaux rageurs, envolées lyriques, passages atmosphériques ou symphoniques, et de grandes envolées. Sans oublier un succès mondial que le single Kaylee, encore présent dans les bus polonais 20 ans plus tard. Ce soir, après une envolée lyrique signée Fish, nous attirerons en douceur du côté de l'Écosse, dans la région d'où est originaire le chanteur Heart of Lothian, Mary Lyon. Of Lothian, Mary Lyon, extrait d'un des plus beaux albums des années 80, Miss Play Childhood, sorti en 1985. Alors tout y était, hein, la beauté de la musique et de la pochette, du talent, celui des musiciens et du chanteur, et de la longévité, puisque le groupe est encore debout, hein, Fish est parti depuis plus de 30 ans, mais l'esprit demeure à tout jamais. Miss Page Childhood, un album indispensable dans toute bonne discographie de rock. Il est temps de prendre l'Eurostar, direction la...
Oui, on peut.
Bah, ça, c'est encore ouvert, donc...
Ouais, encore, on peut. L'Eurostar.
Ah oui. Voilà, ou le bateau.
Le ferry, aussi.
Allez. Direction la Belgique et en région flamande où le rock se conjugue plus à l'anglais qu'au français. Alors, si je vous dis Anne Pirlet, Absent Minded... Arnaud, Deus, Zita Swoon, vous comprendrez le talent tout simplement. C'est aussi le cas d'un autre combo wallon, Tonio.
Ouais, il s'agit de Balthazar, qui est un groupe, comme tu l'as dit, belge, formé en 2004 par des musiciens originaires de la région de Courtrai.
Ben oui.
Durant leurs années de lycée, le guitariste Martin...
J'ai dit wallon, c'est flamand. Ouais.
C'est flamand. Courtrai, c'est où? C'est en Flandre?
Je ne sais pas. J'ai dit wallon. Ah oui.
Ouais, bah, on verra. Donc, région de Courtrai. Donc, soit en Flandre, soit en Wallonie, on verra bien.
C'est important pour eux. Oui, alors, voilà. Pas nous fâcher avec les Belges.
Surtout pas.
Avec tes blagues en plus.
Donc, durant leurs années de lycée, le guitariste Martin de Volder et la violoniste Patricia Van Est jouent dans les rues de Courtrai où ils font la connaissance d'un autre guitariste, Gint Depré. Vu les noms, à mon avis, c'est des wallons. Les jeunes musiciens de rue commencent à se produire ensemble et forment le groupe Balthazar en 2004. Applause, leur premier album, sort en mars 2010 en Belgique et en octobre 2011 dans le reste de l'Europe, distribué par le label Piace. Le succès de l'album Rats, sorti en octobre 2012, permet à Balthazar d'effectuer une tournée de 2 ans. Il joue notamment en première partie de la tournée européenne du groupe Editors. Tiens, comme par hasard. Ouais. Rats est certifié disque d'or en juin 2013. L'album Thin Walls, sorti en 2015 et dont les chansons ont été composées dans un ancien monastère fréquenté par les deux compositeurs du groupe entre les dates de leur tournée, est enregistré au Royaume-Uni. La particularité de cet album, c'est que Balthazar a fait appel pour la première fois à un producteur. Fever, lui, est publié en 2019 en attendant le nouvel album Sound qui est normalement prévu fin janvier 2021. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de l'album Thin Walls avec le titre Then What, Balthazar. Told you there is now well again where out of this then what and if you're keeping this heart from coming completely apart then what and if the rich are big and for more on the doorsteps of the poor, then what? Then what is it I've got? If someone told you there is. The last thing that's keeping this heart from coming completely apart. Then what? And if in the warmth and rhythm of your skin I lost everything I could win. Then what? Then what is it I've got? That's right.
the salt that lay thin upon the sweat on your skin retreated deep into your body again. Well, what is it then? What is it then? What is it then? What is it I've got?
Then What, un extrait de l'album Thin Walls, publié en 2015 par les Flamands, parce que ce sont des Flamands.
Et oui.
Balthazar.
Voilà, voilà. Et seulement Anne, Gaëlle, Elodie et Pauline, les quatre auditrices fidèles de l'émission. Bah, si vous voulez les rejoindre, bah, dites-le nous.
Voilà.
Voilà. Et bien, avant de nous quitter, revenons un instant dans l'autre pays du rock. Hein, je devrais dire l'un des autres pays du rock, hein, puisque l'Irlande ne fait pas partie du Royaume-Uni.
Non.
Et oui, avec un groupe qui va nous souhaiter à sa façon une bonne et heureuse année 2021. Hein, si je vous dis New Year's Day, vous me répondrez...
U2,
voilà. U2, yeah. Donc il y a 37 ans déjà, la bande à Bono déferlait sur les ondes du monde entier avec une chanson prémonitoire. Tout est calme le jour de l'an, un monde en blanc est en route, nuit et jour, rien ne change le jour de l'an. Et on nous raconte que ceci est l'âge d'or, et l'or est la raison des guerres que nous menons. Rien ne change le jour de l'an. Traduction, c'est le confinement et tout est calme.
Ouais, oui.
Les policiers de Darmanin rôdent.
Ouais.
Que voulez-vous, nous sommes toujours en guerre. Rien ne change le jour de l'an. Hein. Quant à l'or, ce vaccin, la raison pour laquelle nous nous battons, et si c'était tout simplement la liberté hein, de vivre, de s'exprimer, de se déplacer, de se toucher et aussi de mourir, hein, après avoir tout tenté pour nous soigner, y compris en ayant eu le droit de suivre les prescriptions de Didier Raoult et de ses confrères. Demain, nous verrons bien. Demain, c'est la nouvelle année. En néerlandais, New Year's Day. Youtou.
chosen fear. The newspaper says,
nous souhaite une bonne année 2021 en public, le chanceux. Dans la chanson, il est question que de monde en blanc, espérant que celui des blouses blanches sera meilleur. Rappelons une dernière fois ce que nous a promis Emmanuel Macron le 12 mars 2020. La santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, ne sont pas des coûts mais, ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables. Quand le destin frappe, il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Si c'est Macron qui l'a dit, on peut lui faire confiance. « I will be you again », chantait U2 le 20 août 1983. Marco, qui n'en pas douter sera un de nos futurs 18e auditeurs fidèles. Je serai à nouveau avec toi pour parler de la bande à Bono. Tonio, je serai à nouveau avec toi. Rendez-vous le 7 janvier 2021. Eh oui.
Ben oui, Michel.
Eh oui.
Le 7 janvier ah ouais. 2021. Ah ouais. Peut-être.
Peut-être. Mais si. Allez, arrêtons d'être négatifs. On est à Radio B ici. B comme bonne humeur.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Et voilà qui clôture en beauté une année qui restera dans toutes les pages d'histoire.
Eh oui. Ah oui, oui, surtout qu'on a fini à l'heure.
Eh oui.
Nickel, comme d'hab.
Comme d'hab. Espérons juste que la vérité sera tout autre que celle que vous croyez aujourd'hui. Et que les complotistes d'aujourd'hui seront les hommes, les femmes de demain. Voilà, il va être l'heure de se quitter. Tonio, bonsoir.
Salut Michel, bonne année.
Bon réveillon.
Oui.
La semaine prochaine, on vous donnera l'eau à la bouche, celle d'aller en concert.
Hein,
peut-être. On l'espère, à partir du 7 janvier 2021.
Ah mince, j'ai encore été négatif.
Oh. C'est vrai. Oui,
excuse-moi Michel.
Peu, sinon on arrête de vivre là.
Oh là.
Et c'est pas encore le cas.
Non.
Et nous retrouvons nos artistes dans les studios dès le 14 janvier avec la venue de notre ami Petrek avec son nouveau spectacle et nouvel album Jeune Public Boom Boom. Le 21 janvier avec la venue de Julien Fay qui viendra présenter son projet métal Dreams Aeterna. Aeterna, et le 28 janvier 2021 avec nos amis de la tannerie de Bourg-en-Bresse. Voilà, mais en février, il y en aura plein d'autres aussi. Sur ce, si vous êtes jeudi, passez un bon réveillon.
Mm-hmm.
Si vous êtes vendredi,
Bonne année.
Bonne année
ben voilà,
2021
bonne année. Et samedi, pareil.
Bon week-end.
Bon week-end
voilà.
aussi.
Bon week-end aussi. Hein, et rendez-vous la semaine prochaine ou l'année prochaine. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. C'est vous qui voyez. Sous les 90.0
de Radio B.
Bonne soirée.
Salut à tous.